RFI, la radio du monde, la radio en direct de la Côte d'Ivoire. Nous sommes ici à Anoumabo pour le FEMUA et il est 21h en temps universel et à Anoumabo, le journal. C'est maintenant présenté par Antoine Galen. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Claudie, bonsoir à tous. La création d'une commission d'historiens, mais pas de réparation financière pour Haïti. Annonce du président français Emmanuel Macron ce jeudi. Un jour particulier car il s'agit du bicentenaire de la dette d'Haïti imposée par la France pour que ce pays des Caraïbes obtienne son indépendance. On fait le point dès le début de ce journal. Une visite qui symbolise le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Le prince Khalid Ben Salman s'est rendu à Téhéran ce jeudi. Depuis 1979, aucun ministre saoudien de la Défense ne s'était rendu en Iran. Pas de récession en vue d'après le Fonds monétaire international, mais l'ombre des droits de douane américains plane et la croissance mondiale est en baisse. Et puis de véritables marées humaines dans les aéroports de Séoul. Les fans de K-pop sont prêts à tout pour voir leur star préférée, ce qui provoque d'importants problèmes logistiques. Vous avez les titres ? Bienvenue.
RFI.
Une commission d'historiens, mais pour l'instant, pas de réparation financière pour Haïti. C'est ce qu'a annoncé le président français Emmanuel Macron ce jeudi. Un jour particulier car il s'agit du bicentenaire de la dette d'Haïti. 150 millions de francs or, l'équivalent de plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est le prix qu'a payé Haïti pour que la France reconnaisse l'indépendance du pays. Une spirale infernale car Haïti a dû emprunter à de nombreuses banques françaises. Le pays ne s'en est pas relevé car il est aujourd'hui le plus pauvre des Amériques. Le président français a publié un communiqué ce jeudi après-midi. Marine de la Moissonnière.
La France a imposé une très lourde indemnité financière à son ex-colonie, reconnaît Emmanuel Macron dans ce communiqué, mais pas question pour autant de verser une réparation financière, comme le réclament les autorités de Port-au-Prince. L'heure est au travail de mémoire, juge le président qui a décidé de former une commission d'historiens franco-haïtiens. Leur mission, étudier l'impact sur Haïti du paiement de cette dette et formuler au gouvernement des deux pays des recommandations. En 1825, en échange de la reconnaissance de son indépendance, la jeune République haïtienne avait dû accepter de verser 150 millions de francs or pour indemniser les anciens propriétaires de terres et d'esclaves, une somme ramenée un peu plus tard à 90 millions de francs or que les Haïtiens ont dû emprunter à des banques françaises. Les derniers intérêts n'ont été remboursés qu'en 1952. Pour beaucoup d'Haïtiens et de spécialistes de la question, sans cette dette colossale, le pays ne serait pas dans une telle situation aujourd'hui. Mais pour la France, l'enjeu dépasse le cas d'Haïti. Faire un geste financier envers ce pays, ce serait envoyer un signal à ces autres anciennes colonies qui réclament elles aussi des réparations.
Au Proche-Orient, le Hamas dit qu'il n'acceptera qu'un accord complet avec Israël. L'État hébreu avait proposé une trêve temporaire de 45 jours selon certaines conditions. Dans l'enclave, la situation est toujours aussi dramatique. Ce jeudi, au moins 40 Palestiniens sont décédés dans des bombardements israéliens selon les secours. La plupart étaient des déplacés ayant trouvé refuge dans des camps de fortune. Les ONG s'inquiètent et indiquent que l'aide humanitaire à Gaza est menacée d'un effondrement total. En raison du blocage de l'aide humanitaire par Israël depuis le 2 mars, laissez-nous faire notre travail, exhortent les représentants de Médecins du Monde, Oxfam et du Norwegian Refugee Council. L'actualité dans la région, c'est aussi en Iran où s'est rendu le ministre saoudien de la Défense, le prince Khalid bin Salman, frère du prince bin Salman. C'est une visite à Téhéran inhabituelle qui marque le rapprochement des deux pays, Siavash Ghazi.
C'est la première fois depuis la révolution islamique de 1979 qu'un ministre saoudien de la Défense effectue une visite en Iran. Il a été reçu par le chef d'état-major des forces armées, mais aussi par le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, qui a exprimé la volonté de rapprochement de son pays avec l'Arabie saoudite. Les deux pays peuvent être complémentaires, a déclaré le numéro 1 iranien. Cette visite surprise intervient en pleine tension entre l'Iran, les États-Unis et Israël à propos du programme nucléaire iranien. Samedi, une nouvelle rencontre est prévue entre Iraniens et Américains sur le dossier. Surtout, on est loin de l'époque où l'Iran et l'Arabie saoudite s'affrontaient en Syrie, au Yémen ou encore au Liban. Téhéran et Riyad avaient rompu leurs relations diplomatiques après le saccage de l'ambassade de l'Arabie saoudite en Iran en 2016. Les deux pays ont décidé de reprendre leurs relations en 2023. Cette visite intervient aussi alors que les États-Unis et Israël menacent d'attaquer les sites nucléaires iraniens en cas de non-accord sur ce dossier avec Téhéran. Siavash Ghazi, Téhéran RFI.
Autre visite à Téhéran, celle du chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi. Il s'est entretenu avec son homologue iranien ce jeudi, tandis que les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran sur le nucléaire vont se poursuivre samedi à Rome. De son côté, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou indique qu'Israël n'autorisera pas l'Iran à avoir l'arme nucléaire. Un marathon de réunions à Paris, américains, européens et ukrainiens se sont retrouvés ce jeudi autour d'une table pour discuter de la fin du conflit en Ukraine. Et ce au moment où les négociations de cessez-le-feu initiées par Washington piétinent. La présidence française se félicite d'un processus positif et auquel les Européens sont associés. L'Élysée a annoncé une nouvelle réunion la semaine prochaine à Londres. De leur côté, Donald Trump attend une réponse de la Russie cette semaine sur un cessez-le-feu. Et le secrétaire d'État américain Marco Rubio a appelé son homologue Sergueï Lavrov pour lui faire part des discussions à Paris. Le Fonds monétaire international n'envisage pas de récession cette année. Le commerce se poursuit, mais les perturbations entraînent des coûts. Avertissement tout de même de la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva. Elle s'est exprimée ce jeudi en amont des réunions de printemps qui se tiendront la semaine prochaine. Un temps fort prévu cette année dans le contexte particulier de redéfinition mondiale des droits de douane. Donald Trump a mis en place des droits de douane d'au moins 10% sur l'ensemble des produits entrant aux États-Unis. Alors les perspectives économiques mondiales seront publiées la semaine prochaine, mais la directrice du FMI a dévoilé les grandes tendances. On l'écoute.
Nos nouvelles projections de croissance incluront des baisses notables, mais pas de récession. Les prévisions d'inflation pour certains pays seront également revues à la hausse. Nous mettrons en garde contre le fait qu'une incertitude élevée et prolongée augmente le risque de tensions sur les marchés financiers. Au début du mois, nous avons observé des mouvements inhabituels sur certains marchés obligataires et monétaires clés. Nous voyons comment le dollar s'est déprécié et les rendements du Trésor américain ont augmenté. De tels mouvements doivent être considérés comme un avertissement. Tout le monde souffre si les conditions financières se détériorent. À l'inverse, nos perspectives économiques mondiales montreront également qu'une action politique déterminée visant à résoudre les différends et à rééquilibrer la situation peut donner de meilleurs résultats. Can deliver
better outcomes. Et pour faire face à l'offensive douanière américaine, la Chine renforce ses liens en Asie du Sud-Est. Le président chinois Xi Jinping a rencontré le premier ministre cambodgien ce jeudi à Phnom Penh. Il s'était auparavant rendu au Vietnam et en Malaisie. Pékin reste taxé à 145% par les taxes de Donald Trump et a imposé en représailles 125% sur les produits américains. Direction la Corée du Sud, les fans de K-pop se précipitent dans les aéroports de la capitale dès qu'ils aperçoivent leur star préférée. Conséquence, les halls d'aéroports sont noirs de monde et cela engendre d'importants problèmes logistiques. Des rassemblements permis par des réseaux de recel d'informations sur les vols des stars de la chanson. Correspondance de Celio Fioretti à Séoul.
Bousculade à l'aéroport de Gimpo, près de Séoul, entre passagers, sécurité et fans de K-pop venus assister au départ de leur groupe préféré, gênant le fonctionnement de l'aéroport. Une scène qui devient de plus en plus fréquente depuis la mise en place de réseaux de recel d'informations de vol. Sur les réseaux sociaux, des employés de compagnies aériennes ayant accès à des données privées vendent aux fans, parfois contre moins d'un euro, les informations exactes d'arrivée et de départ de célébrités, un réseau qui facilite les regroupements de fans aux aéroports. Un problème qui dépasse les autorités qui craignent pour la sécurité des stars de K-pop dans les aéroports et même durant les vols. Certains fans ont déjà acheté des billets sur les mêmes vols pour s'approcher de leur idole. La police travaille avec les agences d'artistes pour démanteler ces réseaux de recel d'informations. En février, la police sud-coréenne a arrêté une jeune femme suspectée d'avoir vendu pour 7000 euros d'informations confidentielles sur les itinéraires de nombreuses célébrités. C'est le Fioretti, Séoul, RFI.
Et puis du football avant de refermer ce journal. Quart de finale, retour de Ligue Europa. L'Olympique Lyonnais résiste à Manchester United. 2-2 dans le temps réglementaire. Les prolongations ont commencé. C'est aussi le cas du match Lazio-Bodo-Glimt. De son côté, Tottenham passe en demi après une victoire 1-0 contre Francfort. Autre qualifié, l'Athletic Bilbao. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.